C'est dans les années 70 que le Bhoutan, ce pays de l'Asie du Sud, a reconnu la suprématie du bonheur sur le revenu national en adoptant le BNB, l'indice du bonheur national brut. Plus récemment, en 2012, les Nations Unies ont proclamé le 20 mars Journée internationale du bonheur en reconnaissant que le bonheur et le bien-être devaient être des aspirations universelles. À quoi correspond cette quête du bonheur? Peut-on en faire un objectif politique et sociétal? Quels sont les pièges tendus par la recherche du bonheur? C'est ce que nous allons voir avec mes invités dans un instant. Et avec vos messages, vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. L'homéopathie à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, avec un nouveau rapport à charge contre cette médecine.
Le Conseil national de santé australien qui jette un nouveau pavé dans la mare à dilution et conclut que l'homéopathie est purement et simplement inefficace. On en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag la TAC.
Et voilà pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré réalisée par Violaine Ballet avec un dossier préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Ilios Kotsou et Alexandre Jost, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux. Mathieu. Le bonheur est-il le nouveau Graal de notre époque? Ce sera donc le dossier avec vous dans un instant. Ilios Kotsou, vous êtes chercheur en psychologie des émotions. La quête du bonheur, c'est pas un peu fatigant, non? Ça pourrait presque finir par énerver parfois.
Complètement. Et on peut se rendre compte aussi que bien sûr, nous voulons tous être heureux. Et en même temps, l'OMS nous dit qu'à l'horizon 2030, les problèmes de dépression seront la première cause d'invalidité dans le monde. Alors on peut se poser la question. Cette quête du bonheur effrénée, d'un autre côté, eh bien... ça n'a pas l'air de fonctionner aussi bien qu'on le voudrait.
Ouais, et vous nous direz pourquoi, Alexandre Jost, Spinoza, c'est un bon camarade de jeu pour la recherche du bonheur?
Ah oui, oui, Spinoza, écoutez, c'est l'un des rares philosophes à avoir osé faire de la joie l'un des piliers de sa pensée. On connaissait l'ascèse, on connaissait la vie vertueuse, on connaissait beaucoup de choses, ouais. Mais un philosophe qui nous parle de joie, ouais. À la Fabrique Spinoza, ça nous enchante.
Bon, il est beaucoup plus drôle. Et vous êtes donc le fondateur du think tank La Fabrique Spinoza, qui œuvre pour favoriser le bien-être citoyen. Vous allez nous expliquer comment vous y prenez. On se retrouve dans un instant, bien sûr, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent déjà sur le site de l'émission. L'homéopathie totalement inefficace, point d'interrogation, c'est à la une de la science aujourd'hui.
Alors messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe! Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé! Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour, il passe une heure avec chaque client, hein, une heure! Alors maintenant c'est décidé. S'il veut la guerre, ce sera la guerre. Mais l'homéopathie, c'est fini. Dehors tout le monde!
Voilà un petit extrait de la crise pour parler de cette étude australienne qui est sortie à la fin de la semaine et qui donc attaque vivement l'homéopathie. Elle a été menée par le Conseil australien de la santé nationale, de la recherche médicale et la conclusion est sans appel, cette médecine n'est efficace contre aucune maladie. Pour en parler, nous sommes avec vous, Nawal Boujdeini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacologie et responsable de recherche pour le laboratoire Boiron qui commercialise donc des médicaments homéopathiques en France et ailleurs. Dominique Dupagne est à nos côtés. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes notre médecin général. Nawal Boujdeini, en lisant cette étude australienne, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux milliers de Français qui se soignent avec des granules homéopathiques et puis peut-être pour essayer de convaincre les autres?
Donc je vous remercie pour votre invitation et moi en tant que chercheur, donc, j'ai trois points qui ont attiré mon attention dans, dans ce rapport, mm-hmm. qui n'est pas le premier rapport ni la première méta-analyse. Donc les trois points sur lesquels je vais revenir en détail. Le premier, c'est le choix arbitraire des études. Donc, ils ont sélectionné les études de 1997 à 2013 en omettant de lister certaines études favorables pour l'homéopathie. Le deuxième point, c'est l'évaluation de la qualité des études ancienne, c'est l'évaluation de la qualité des études anciennes avec une échelle de qualité méthodologique récente qui date de 2007. Et le troisième point, c'est la composition des experts qui est critiquable. Donc, critiquable, pourquoi?
Il n'y avait pas d'experts favorables à l'homéopathie.
Il n'y avait pas d'experts du domaine homéopathique. Mmh. Et ceci se reflète au niveau du rapport, puisque nous avons remarqué qu'ils ont éliminé toutes les études qui prennent en compte l'individualisation qui est la spécificité de l'homéopathie. Donc c'est comme si nous souhaitons demain faire une enquête sur le dérèglement climatique oui. Et nous allons oublier de prendre en compte des experts du domaine comme les climatologues, les météorologues. Donc voilà.
Alors Dominique Dupagne, comment cette étude australienne en arrive à une conclusion si radicale hein, quand même, parce qu'il n'y a aucune maladie qui ne trouve grâce à leurs yeux visiblement. Hein.
Alors c'est pas un nouveau travail scientifique, hein, c'est une revue de ce qui existe. C'est pas la première fois en effet que ça arrive. Donc à chaque fois, bien sûr, tout le monde s'agite. Les homéopathes disent ça a été mal fait. Les anti-homéopathes disent au contraire. Mm-hmm. Je suis pas sûr que ça soit plus passionnant, si vous voulez, de prendre une bataille à partir d'études. Il est vrai que l'homéopathie peine à prouver son efficacité, mais est-ce que vraiment c'est utile de se lancer dans une démonstration scientifique?
Surtout de la part des Australiens, non? Qui sont pas tellement sensibles à cette
pharmacopée. Bon, c'est les Anglo-Saxons, ils ont un côté quand même très carré. Et nous, les Latins, on est plus côté valeur humaine. Alors, c'est une médecine qui est un peu humaine, l'homéopathie. Et puis surtout, ça évalue les remèdes homéopathiques. Mais l'homéopathie, c'est pas que ça. C'est une consultation avec un médecin homéopathe plus une éventuelle prescription de remèdes homéopathiques.
Oui. Avec un médecin qui prend du temps, comme on a entendu dans l'extrait de la crise tout à l'heure. Et ça change tout. Hein.
Mais qui s'intéresse à la personne, alors que l'allopathie s'intéresse à l'organe, si vous voulez. Donc, il y a une approche qui est totalement différente dans les deux cas. Ouais.
Dominique, quand même un mot sur votre position pour être très clair sur l'homéopathie. Vous n'êtes pas médecin homéopathe, mais vous en prescrivez.
Alors, je ne prescris pas d'homéopathie parce que ça supposerait que j'ai une formation dans cette discipline. Moi, je considère la médecine plutôt comme un art, même si je suis scientifique de formation. Clairement, je ne crois pas à une efficacité intrinsèque de ce qui est contenu dans les granules, ou alors ça mettrait en cause beaucoup de lois physiques et chimiques. Si
c'est-à-dire que pour vous, c'est quoi, de la perle, de la poudre de perlimpinpin?
Non, c'est des termes qui sont blessants, je dirais. C'est un adjuvant.
Ben non, vous dites qu'il n'y a rien intrinsèquement, donc il y a quoi dedans?
Il n'y a pas d'efficacité intrinsèque dans les granules, comme dans beaucoup de médicaments allopathiques largement prescrits, si vous voulez. On connaît la force de la parole, on connaît l'importance de la prise en charge humaine des patients, et aussi de l'effet de la prescription. Alors on peut dire placebo pour dire un mot qui fâche, si vous voulez, mais le placebo, il est dans la façon de parler, dans la façon de recevoir, dans la façon d'écouter aussi. Donc, à la fois, bien évidemment pour moi, le remède homéopathique ne contient rien de tangible, et en même temps, l'homéopathie est une médecine que je trouve intéressante et précieuse.
Bon, donc c'est plutôt l'environnement autour de la personne qui va se soigner qui fonctionne sur le malade, plus que sur la granule elle-même, alors.
C'est une approche médicale particulière. Ouais. Voilà.
Nawal Boujdeni, alors là, vraiment, je m'adresse à la chercheuse. Quelles preuves scientifiques vous apportez, justement, vous, pour montrer l'efficacité de l'homéopathie?
Après, qu'est-ce que vous entendez par l'efficacité, puisque
est-ce qu'on parle de... Vous êtes scientifique quand même, donc vous étudiez le problème.
Je vous parle en tant que chercheur et je suis venu ici avec la casquette chercheur.
Oui, mais répondez-moi. On ne fait pas de circonvolution. Répondez-moi directement. Qu'est-ce qu'il y a comme preuve de l'efficacité de l'homéopathie?
Aujourd'hui, je peux vous parler d'une étude qui vient de se terminer, d'une grande étude, épidémiologique qui a été réalisé sur trois grandes pathologies les plus fréquentes au niveau de la médecine générale. Et je peux les citer: sur les infections des voies aériennes supérieures, sur les douleurs musculaires squelettiques, sur le sommeil, anxiété et dépression. Et dans cette étude, il y a 800 médecins qui ont participé et 8000 patients qui ont été inclus. Mmh. Et nous avons montré dans cette étude... il a été montré que les patients traités par des médecins qui utilisent l'homéopathie sont aussi bien améliorés à la fois au niveau des symptômes cliniques et aussi de la qualité de vie par rapport à des patients qui sont suivis chez des médecins qui utilisent les médicaments conventionnels.
Oui. Donc, alors, le problème, c'est que cette étude, elle s'appelle EPI 3, c'est bien ça ?
EPI 3.
Voilà, EPI 3, et qu'elle est financée par Boiron. Donc, vous comprenez que
C'est une étude qui est réalisée quand même par des universitaires, des scientifiques de renom. Donc, on va pas...
Et financé par Boiron.
Bah quand même. Mais attendez, comme Mathieu, tous les laboratoires pharmaceutiques.
Oui, mais on peut se dire, est-ce que ça biaise pas un peu les résultats?
Non. Toutes les études sur les médicaments sont financées par le fabricant des médicaments. Clairement. Quelle que soit l'homéopathie ou l'allopathie.
Je peux vous apporter encore une information, c'est que cette étude, même si elle a été financée par Boiron, c'est une étude dont celui qui a géré l'étude, et je vais donner le nom, c'est Lucien Abenaïm, il a souhaitait garder sa neutralité. Il était le promoteur de l'étude. Donc... Donc, il y a c'est une étude qui a montré le bénéfice de l'homéopathie pour traiter des pathologies chroniques.
Axel Villard.
Oui, une question que je me pose, et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que l'homéopathie coûte ou rapporte de l'argent à la société et à la sécurité sociale ?
Je peux vous répondre sur cette question, puisque...
Dans le micro, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, l'homéopathie, il y a une grande polémique sur l'homéopathie, mais l'homéopathie, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente uniquement 0,1% du marché mondial du médicament. En France, effectivement, nous avons 56% des Français qui utilisent l'homéopathie. Et l'homéopathie, elle a progressé pendant les 200 années depuis qu'elle a été créée. Elle a été créée par le fondateur Samuel Hahnemann sur, bien sûr, une démarche scientifique.
Dominique Dupagne.
Une démarche scientifique, il a commencé par faire le principe des contraires, c'est-à-dire de donner un médicament qui donnait l'effet de la maladie. Et quand il a vu que tout le monde mourait, il a pensé à les diluer après. Donc c'est une démarche scientifique, mais qui est un petit peu pragmatique quand même.
Juste une question quand même. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à avoir des études scientifiques, autres que celles que vous nous citez, donc EPI 3, c'est pas très compliqué de mettre un protocole en place quand même pour tester l'efficacité. Parce qu'il faudrait quand même avoir des résultats là-dessus. On voit bien que ça fonctionne quand même.
On pourrait imaginer que Boiron mette de l'argent sur la table, il a de l'argent, et pour dire à tout le monde, bah, écoutez, on va se mettre autour d'une table, on va trouver un protocole, on va le faire ensemble, vous allez être des observateurs et puis on va publier les résultats et on sera forcé d'adhérer à tous ces résultats. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûr que je sois favorable à ce genre de choses. Et je vous explique pourquoi. Une histoire très simple. Une fois, j'avais une patiente, quand j'étais un jeune médecin, un petit peu péremptoire, qui me prenait un petit peu de haut et qui me dit à la fin de la consultation, à l'époque, la vitamine C était remboursée et prescrivez-moi mon gramme de vitamine C tous les matins parce que sinon je ne peux pas travailler. Et je lui dis, mais comment la vitamine C? Mais ça n'a aucun effet, mais c'est un placebo, etc. Elle me dit, vous êtes sûr? Mais oui. Et je lui envoie, parce que j'étais un peu vexé, deux études scientifiques montrant que la vitamine C n'avait aucun effet placebo. Je la revois 6 mois après, elle arrive, elle me regarde, elle me dit « Docteur, vous êtes un imbécile ». Je dis « Pourquoi ?» Eh bien, j'ai lu vos études et maintenant la vitamine C ne me fait plus rien. Alors je fais quoi maintenant? Et je suis resté la bouche ouverte devant et j'ai compris que la médecine était un peu plus compliquée que ce que je pensais. Et donc... Il y a des pratiques semi-magiques, je dirais, en médecine. Est-ce qu'il faut absolument aller fouiller?
C'est pas tenable comme argument, mais c'est pas tenable.
Mais attendez, parce qu'il faut que la science prouve. Vous arrêtez la psychanalyse, vous arrêtez tout.
On est sur des molécules, on est sur des médicaments, donc il faut savoir comment ça fonctionne.
Des assimilés médicaments qui ne coûtent rien, qui ne présentent aucun danger, qui sont prescrits par des médecins compétents et qualifiés, qui sont capables de passer à l'allopathie quand c'est nécessaire, donc dans des conditions de sécurité extrêmes. Moi, je serais personnellement très triste qu'on arrête de rembourser l'homéopathie. Je trouve qu'il faut un espace.
Mais ça, c'est autre chose. De rembourser, c'est autre chose, mais qu'on fasse des études scientifiques, c'est une chose.
Quelles conséquences ça aurait si on déremboursait l'homéopathie, selon vous, Dominique ?
Un surcroît d'effets secondaires avec des médicaments dangereux, une surconsommation d'antibiotiques, une augmentation des coûts de la santé, des gens qui seraient moins bien pris en charge, qui seraient très malheureux. Ça serait, à mon avis, quelque chose de dangereux.
Nawal Boujdeni, pour conclure.
Je rejoins
Dominique Dupagne
sur le fait qu'il va y avoir une augmentation des effets indésirables et aussi de la consommation, une surconsommation de médicaments qui induisent des effets indésirables. Et cette étude, je reviens encore une fois sur l'étude EPI 3 qui a montré sur une pathologie de douleur musculaire squelettique, qui est quand même une pathologie chronique, nous avons amélioré la qualité de vie avec une diminution de 30% de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc là, on apporte un bénéfice, mais sans aucun danger.
Allez, Dominique, pour terminer, en tout cas, on peut dire aussi qu'il y a une majorité de Français qui se soignent aussi comme ça.
Et qui s'en portent très bien. Le débat que vous voulez, c'est est-ce que c'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur des granules ou est-ce que c'est lié à la prise en charge ?
Ça serait intéressant de le savoir.
Eh bien, je n'en suis pas certain.
Bon, ça c'est votre conclusion, mais je ne partage pas votre avis.
Et la conclusion finale, pour revenir sur les études scientifiques, nous menons des études sur les cultures cellulaires, sur des cellules in vitro, et là, il n'y a pas un effet placebo, et nous avons montré, avec les médicaments homéopathiques, et c'est réalisé dans les laboratoires universitaires publics, nous montrons une activité biologique.
Bon. Et on finit avec ce texto de Alex qui nous dit ceci, on ne comprend pas ce genre de débat, l'essentiel c'est que ça fonctionne pour certains. Et bien voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. En tout cas, à tous les deux. Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, attention à l'excès de sel. Des chercheurs du Delaware enfoncent le clou, jusqu'à présent connu pour endommager les parois internes des vaisseaux sanguins et compromettre le bon fonctionnement du cœur. L'abus de sel pourrait aussi atteindre les reins, entraîner des troubles de la coagulation ou des anémies, mais surtout les neurones moteurs du cerveau et le système nerveux sympathique. Même sans souffrir d'hypertension artérielle, il est vivement conseillé de suivre les recommandations qui sont de ne pas dépasser 3,2 grammes de sodium par jour chez les hommes et 2,6 chez les femmes. Une question pour les jeunes parents, body ou turbulette? Des chercheurs de Rennes ont observé l'impact de l'habillement des prématurés sur leur comportement. Les bébés enveloppés d'une turbulette étaient moins actifs et touchaient moins fréquemment d'autres parties de leur corps que les bébés vêtus d'un simple body. Les scientifiques supposent que les bébés en turbulette pourraient subir plus de stress que les autres. Il a la face plate, de grands yeux, un nez bien marqué, une belle crinière blonde. Un spécimen rare de singe, l'Ezula, a été filmé 3 fois dans la forêt nationale du Congo. Photographié pour la première fois en 2007, il a été identifié comme nouvelle espèce en 2012. Et vous pouvez retrouver la vidéo de ce singe Lézula sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, la quête du bonheur dans un instant. Avec Amy Winehouse.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Vendredi 20 mars, journée internationale du bonheur déclarée par l'ONU. Et avant cette échéance, on s'intéresse donc à ce besoin fondamental de bonheur, à la possibilité de favoriser le bien-être citoyen, mais aussi aux illusions mensongères qui entourent le bonheur. Pour en parler, Ilios Kotsou, donc vous êtes chercheur en psychologie des émotions à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes l'auteur de ce livre « Éloge de la lucidité ». C'est aux éditions Robert Laffont. Et puis Alexandre Jost, vous êtes le fondateur du think tank du bien-être citoyen à la Fabrique Spinoza et vous allez justement participer à cette journée internationale du bonheur. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé « la TAC ». Ilios Kotsou, est-ce que le bonheur, ça s'enseigne d'abord à l'université ?
Alors ça s'étudie en tout cas, je sais pas si ça s'enseigne, mais ça s'étudie, et puis on se pose la question justement de savoir, pas seulement qu'est-ce que c'est que le bonheur, mais quels sont les moyens peut-être d'atteindre un état de bien-être, et quels sont les moyens qu'on emploie souvent et qui ne nous permettent pas d'y arriver. Et on se rend compte, et ça a été étudié, que la poursuite du bonheur, cette poursuite effrénée du bonheur à laquelle nous invite notre société, elle n'amène pas paradoxalement le bonheur, bien au contraire.
Alexandre Jost, est-ce qu'on peut parler d'une science du bonheur aujourd'hui ?
Oui, on peut en parler parce que depuis une quinzaine d'années, on commence à avoir un rassemblement de disciplines qui avant ne parlaient pas entre elles, la psychologie positive, l'économie du bonheur, les neurosciences évidemment, qui apportent des éléments, des clés, alors les détracteurs parlant de recettes, mais en tout cas des éléments qui sont susceptibles d'éclairer notre parcours individuel et collectif en vue du bonheur, oui.
Alors, la fabrique, justement, Spinoza, que vous avez créée, a pour ambition de favoriser le bien-être citoyen. Rien que ça, c'est ambitieux. Et vous avez donc des démarches en ce sens.
Oui, tout à fait. On est parti d'un constat très simple. Vous avez peut-être déjà entendu parler du paradoxe d'Easterlin, qui montre, il a été établi en 1974 par un économiste, et qui montre qu'en 35 ans, finalement, lorsque le PIB augmente, y compris dans un pays comme la France, eh bien, dans le même temps, la satisfaction de vie des Français, quant à leur propre vie, sur la base de leur propre déclaration, reste la même. Quand on entend ça, on se dit, on a dû rater une marche quelque part. Donc notre volonté, c'est à l'échelon individuel et collectif, dire quel pourrait être un cap pour notre société et quelle place redonne-t-on à l'épanouissement humain, au bonheur citoyen, de telle sorte à influencer les politiques publiques que l'on élabore, le fonctionnement des entreprises, des universités, mais aussi des villes et de chacun d'entre nous.
Concrètement, alors comment vous allez participer à cette journée internationale du bonheur ?
Alors, concrètement, eh bien, en partenariat avec le Printemps de l'Optimisme, eh bien, le 21 mars, nous animons une table ronde sur l'éducation et le bonheur. Comment faire en sorte que nos lycéens ne soient pas ceux qui, de l'OCDE, aient le moins envie d'aller à l'école. C'est quand même assez triste. Le 22 mars, en partenariat avec le Printemps de l'Éducation, eh bien, même réflexion, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles recommandations, préconisations aux ministres ? À la ministre, pardon, de l'éducation pour favoriser le bonheur à l'école.
C'est pas la ministre du bonheur encore, hein. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant on l'a pas.
Hein. Ah, mais vous savez que pour faire un grand écart avec les actualités autour de Charlie, ces attentats terroristes ont eu pour conséquence de ramener comme sujet fondamental le vivre ensemble. Et entre le vivre ensemble et le bonheur citoyen, il n'y a pas une distance si importante. Donc on a une chance de réintroduire ce sujet-là dans les écoles et faire en sorte que nos élèves soient plus épanouis, apprennent mieux et ce faisant deviennent des citoyens avec un regard critique, responsable et donc moins enclins à la radicalisation des années plus tard.
Larry nous dit ceci sur franceinter.fr. Parlez du bonheur, s'il vous plaît, mais en évitant l'idioptimisme. Le niveau individuel et collectif du bonheur sont-ils conciliables? Car le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ilios Kotsou, vous secouez quand même le bonheur dans tous les sens là, dans votre ouvrage. Hein.
Oui, en rebondissant sur la question du produit intérieur brut, c'est cette question du bonheur qui est mise à l'aune des finances, eh bien, c'est ce bonheur qu'on pourrait acheter. Notre société est passée du droit au bonheur, qui est une bonne chose, à l'obligation au bonheur aujourd'hui. Et donc, le bonheur est devenu un nouveau produit qu'on nous vend en toutes les sauces, dans toutes les publicités. Donc, nous devrions absolument être heureux. Et là, il y a vraiment des études très solides et sérieuses qui vont investiguer en quoi cette poursuite du bonheur effréné va se retourner contre nous. Et donc, on pourrait dire qu'il y a quatre grands mécanismes qui montrent que ça ne fonctionne pas. Le premier, c'est de nous mettre des attentes irréalistes. Et donc, nous attendons quelque chose, le bonheur, peut-être quelque chose de très spécial. Et donc, de la même manière que lorsque quelqu'un vous dit « tel film est un film extraordinaire », ou les soirées de fin d'année, des études scientifiques ont montré qu'on n'est jamais autant déçu que par le réveillon du 31 décembre. Pourquoi ? Parce que nos attentes sont tellement importantes que nous sommes déçus obligatoirement. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que en étant dans la poursuite d'un bonheur ailleurs, ce bonheur qu'on pourrait acheter, on ne voit pas ce qui pourrait faire notre bonheur ici. La compagnie d'un collègue, le sourire d'un enfant et des choses qui sont là tout près de nous.
Pierre nous dit ceci, le plaisir hédoniste, être heureux avant tout et au plus vite, ça semble être une véritable norme, une injonction dans tous les milieux sociaux, chez les retraités comme chez les plus jeunes aujourd'hui. Et c'est exactement ce que vous observez. Il y a vraiment cette recherche obsessionnelle et cette obligation aujourd'hui.
Complètement. Et cette obligation au bonheur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entraîner des personnes à se mettre dans des moyens de chercher le bonheur qui ne sont pas des moyens qui amènent le bonheur.
Ce que vous montrez, c'est que c'est totalement contre-productif en réalité, hein, cette quête effrénée.
Donc, on peut confondre par exemple le bonheur avec le succès. en disant, en atteignant un succès, en se comparant aux autres, nous serons plus heureux. Et on sait bien que cette manière de fonctionner va nous amener à être plus individualistes, alors que comme l'a très bien dit Alexandre, le bonheur, le premier prédicteur du bonheur, ce sont les relations avec les autres. Et cette quête du bonheur qui nous amène à plutôt porter le regard sur nous-mêmes, en nous tournant quelque part autour de notre propre nombril, nous coupe, nous rend plus solitaires. Alors une étude a montré très simplement que le fait d'être obsédé par le bonheur va faire baisser notre niveau d'une hormone du lien, la progestérone, et donc va nous faire nous sentir plus seuls. Et en nous sentant plus seuls, évidemment, nous sommes moins heureux. Et comme vous le voyez...
Ça paraît totalement paradoxal quand même. Hein.
Complètement. Mmh. C'est paradoxal.
Alexandre Jost, c'est le bonheur collectif vous, qui vous intéresse plutôt à la fabrique Spinoza ou
oui,
l'aspect individuel vous plaît quand même?
Mais oui, je crois quand même Ilio c'est un camarade. J'ai l'impression pourtant que les mots ont leur importance et quand on dit obsédé par le bonheur, oui, il y a un danger. Je ferai une différence entre le concept d'obsession, celui de but, celui de finalité et celui d'aspiration. Voilà. Est-ce que le bonheur ne pourrait pas être une aspiration, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à notre esprit à chaque instant, mais qui est en trame de fond dans notre existence? Et là-dessus, une étude scientifique intéressante de Debra O'Hare, ou O'Mare, je ne sais plus.
Debra, on va dire,
Debra,
entre nous,
allez. On va l'appeler Debra, eh bien, qui était infirmière en centre de soins palliatifs, nous dit « J'ai interrogé les hommes et les femmes sur le point de mourir. » Elle a appelé son étude « Les 5 regrets des mourants ». Elle s'est aperçue que le premier regret, c'était d'avoir mené sa vie selon le modèle décidé par d'autres. Et moi, je pose simplement la question, est-ce qu'il ne serait pas vertueux de simplement pouvoir se reposer la question de son modèle de vie et de quelle place on accorde au bonheur? Et se poser cette question, c'est sans doute en faire une aspiration. Et après, pour faire un rebond à votre première question, à s'appuyer sur la science du bonheur. Un exemple très simple. Je ne poursuis pas le bonheur de manière obsessionnelle. En revanche, peut-être que je pourrais regarder un peu moins la télévision. 3h32 par jour en France, chiffre 2010. Alors que, études scientifiques à l'appui, regarder la télévision, eh bien, par effet de comparaison, par inquiétude, par encouragement du matérialisme, rend les gens moins heureux. Donc, ne pas être obsédé, mais on commence à avoir des clés, y compris au niveau individuel, pour favoriser un épanouissement de notre vie.
Alors, en 72, on en parlait tout à l'heure, la mort brutale du roi du Bhoutan porte sur le trône un jeune prince, et c'est lui qui a forgé donc ce concept du BNB, qu'il déclare plus important que le produit intérieur brut, le bonheur intérieur brut.
L'origine du BNB vient d'un intense processus de consultation qui a conduit le jeune roi avec la population. Il a voyagé dans tout le pays, a vu de près comment les gens vivaient. Il leur a demandé quels étaient leurs espoirs et aspirations. Et la réponse était toujours la même. Nous voulons le bonheur. Le roi a alors consulté et cherché quelle était la meilleure manière d'atteindre cet objectif. Il a alors constaté que de nombreux pays, en particulier les pays en voie de développement, avaient sacrifié, sapé leur culture, leur système de valeurs, leur souveraineté, leur environnement, au nom de la croissance économique. C'est ainsi que lui est venue cette idée unique du bonheur national brut.
Voilà, Ilios Koutsou, Alexandre Jost. Ça vous parle, vous, le BNB, c'est un sens réel? Qu'est-ce que ça dit d'abord de la vie réelle des habitants d'un pays comme le Bhoutan, alors? Alexandre Jost.
Moi, ça me parle. Cet après-midi, j'ai la chance d'être invité à une réunion de concertation. Vous avez peut-être vu au sujet des indicateurs complémentaires au PIB. Vous vous souvenez peut-être que ce début d'année, la députée Eva Sass a fait voter une loi à l'Assemblée, adoptée en première lecture, sur le fait d'annexer au budget français, au projet de loi de finances, des indicateurs qui seraient autres que des indicateurs socio-économiques classiques. Cet après-midi, une concertation est à l'œuvre et je me fais fort de faire adopter dans cette concertation des éléments qui prendraient en compte le bonheur subjectif. Je pense qu'il est fondamental que dans une batterie d'indicateurs qui pourrait compléter le PIB, on ait également des éléments comme la satisfaction de vie des gens parce que ce faisant, on apporte un éclairage global. Et on peut déterminer si oui ou non les actions qui sont entreprises permettent de générer de l'épanouissement collectif.
Ça veut dire quoi? Que ça serait voté par l'Assemblée nationale, par exemple?
C'est passionnant. Vous savez, la conséquence directe, ça serait que chaque année, lorsque le budget de la France est examiné, soit également examiné ses conséquences sur ces 10 indicateurs phares qui mesuraient la qualité de vie des Français, dont le bien-être collectif.
Allez, on se retrouve dans un instant. Somnambulons pas en dormant. Somnambulons pas en dormant. Si jamais je m'endors avant. Si jamais je m'endors avant. Y a-t-il une vie le lendemain? Est-ce qu'on reconnaîtra les siens? Somnambule les yeux grands ouverts. Et parfois quand je m'allonge par terre, je revois le centre de la terre. Je revois la maison de mon père. Y a-t-il une vie de lendemain? Est-ce qu'on reconnaîtra les siens? Somnambule, Raphaël, sur France Inter, dans cette tête au carré consacrée à la recherche du bonheur avec Ilios Kotsou. Cet ouvrage Éloge de la lucidité, c'est chez Robert Laffont, ça vient de paraître. Et puis Alexandre Jost avec la fabrique, le think tank, la fabrique Spinoza, vos messages franceinter.fr et vos messages courts sur le mot-clé l'attaque. Quelle définition, Ilios Kotsou, vous donnez d'abord au bonheur?
Je pense que c'est la question centrale. Hein. Le bonheur nous intéresse depuis l'Antiquité grecque, on peut dire, et Rousseau disait « tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur ». Et on peut avoir une vision du bonheur qui est uniquement, on va appeler hédoniste, de voir le bonheur comme étant uniquement le plaisir. Et voir le bonheur comme étant le plaisir, c'est un bonheur très très fugace, puisque la vie de chacun d'entre nous, on sait bien que ce ne sont pas que des moments de plaisir. Et puis on peut avoir une vision du bonheur plus large, qu'on peut appeler plutôt eudémonique, qui nous dirait que le bonheur, c'est le sentiment d'avoir une vie qui a du sens. Et ce sentiment-là, que notre vie vaille la peine d'être vécue, il est bien sûr important et central pour chacun et chacune d'entre nous. Et quand on revient à cette question du bouton, par exemple, la question pour moi n'est pas tant de cette poursuite du bonheur qu'il faudra mettre à l'agenda, mais des conditions. Mmh. Quelles sont les conditions à mettre en place et ces conditions qui permettent à un individu, à une société, de vivre plus de bien-être. Et ce sont ces conditions-là qui sont importantes. Et d'aller vers plus de plaisir, par exemple, c'est pas ça qui va nous l'amener. Par contre, se poser les questions, par exemple, du capital social. On sait aujourd'hui que le capital social, c'est la première ressource collective du bonheur et donc le bien-vivre ensemble dont parlait Alexandre, voilà un des facteurs du bonheur. Quand on regarde les pays où les gens sont les plus heureux, il y a aussi une forme de paradoxe. Pourquoi trouve-t-on au Mexique un niveau de bonheur assez élevé alors que ce pays est plein de violence par exemple et les conditions de vie sont très difficiles? Peut-être parce qu'il y a une forme de solidarité qui reste très importante, et quand la solidarité est importante, le bonheur est plus élevé. On peut prendre l'autre extrême, les pays du nord de l'Europe où il y a un niveau de suicide qui est important à cause de la comparaison sociale peut-être, mais où le niveau de bonheur est très élevé à cause du capital social, plus d'équité, moins de différence entre les plus riches et les moins riches, moins de différence entre les hommes et les femmes, et donc un niveau d'équité qui fait partie du capital social.
Mmh. Ce bien-être citoyen, justement, Alexandre Jost, quelle définition vous donnez-vous du bonheur, justement?
Ben, écoutez, je me rapproche en partie de ce que dit Ilios. En fait, on a besoin d'équilibrer deux pieds. D'un côté, on a le pied de la science, et de l'autre côté, on a le pied du débat. Donc le pied de la science, comme tu le dis, Ilios, on commence à comprendre ce que c'est que le bonheur, à le définir, bonheur hédonique, bonheur hédémonique. On parle même d'une troisième catégorie de bonheur, le bonheur évaluatif, qui est le sentiment de progrès. Et si on les rassemble, eh bien, on aurait une vie pleine. Donc on commence à le comprendre. Pour autant, en tant que société, c'est extrêmement dangereux et ça devrait nous faire froid dans le dos si on se dit on va donner une définition du bonheur. On a besoin de le mettre en débat. Et on a donc cette possibilité extraordinaire de prendre d'un côté des rapports de l'OCDE qui établissent des guides pour mesurer le bonheur citoyen, le bonheur subjectif, et de l'autre, des propositions comme par le collectif FAIR, Forum pour d'autres indicateurs de richesse, ou la Fabrique Spinoza, de générer un grand débat national sur ce qui permettrait aux gens de s'épanouir et de créer un cadre favorable à l'épanouissement. Si on met ces deux choses ensemble, science et débat, alors on n'est pas dans l'autocratie et on peut éventuellement dessiner des politiques publiques.
Ouais, sauf que ça se mesure vraiment, Ilios Kotsou, le bonheur ? C'est mesurable scientifiquement, alors on va reprendre le débat sur l'homéopathie, mais est-ce que...
C'est complètement mesurable et paradoxalement, le bonheur est certainement la seule chose qui mérite d'être mesurée de manière subjective. Puisque on pourrait, dans votre cas, vous personnellement, quand bien même on vous prouverait que vous devriez être heureux, que vous êtes totalement heureux, si de manière subjective... vous vous sentez malheureux, votre vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Et à l'opposé, on peut avoir de difficiles conditions de vie, mais si vous vous sentez fondamentalement heureux, eh bien, vous êtes heureux. Et donc, scientifiquement, la manière la plus simple de mesurer le bonheur d'un individu, c'est de lui demander, est-ce que vous êtes heureux ? Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va prendre quelqu'un ou une population à qui on va faire passer ce questionnaire du bonheur, et ensuite on va leur mettre sur la tête un électroencéphalogramme qui va mesurer les asymétries préfrontales, donc l'activité électrique du cerveau. On sait que les gens qui vont mieux ont une activité électrique plutôt prononcée dans le cortex préfrontal gauche, eh bien, ce que les gens répondent sur leur bonheur et ce que dit l'électroencéphalogramme sont tout à fait corrélés. Et donc, la deuxième partie de la réponse, c'est que nous ne sommes pas tellement mauvais que pour dire comment nous nous sentons.
Donc, ça se mesure, ça se voit aussi.
Ça se mesure et ça se voit.
Apparemment.
Mais il ne faut pas renoncer à l'objectivité. On doit équilibrer objectivité et subjectivité. Le prix Nobel d'économie Amartya Sen nous met en garde contre le principe ou le syndrome du happy homeless, le clochard qui serait heureux. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une telle sagesse dans sa vie qui finalement arriverait à se satisfaire de conditions déplorables de vie. Donc en revenant au collectif, on a besoin d'un côté... d'établir de manière objective ce qui fait que les gens ont des conditions suffisantes pour vivre, que les transports sont bons, la santé, l'éducation, et d'autre part, effectivement, interroger la subjectivité, parce que seul l'individu, comme tu le dis, Ilios, est à même de décider, de dire s'il est heureux ou pas.
Deux messages, Bénédicte nous dit ceci, la mode actuelle qui nous fait croire que nous sommes malheureux m'agace au plus haut point. Il suffit de voir le nombre de publications qui veulent nous aider à retrouver le bonheur ou ces petites phrases pleines de philosophie qui polluent nos pages Facebook. C'est un petit peu contre ça que vous luttez aussi d'ailleurs, Ilios Kotsou. Hein.
Je suis tout à fait d'accord avec elle. L'idée, c'est de revenir à des choses très pragmatiques. Et de nouveau, les études scientifiques nous montrent que le bonheur, c'est non seulement d'abord, c'est pas indu, puisque le bonheur n'est pas indu, et que le bonheur, c'est un acte, ce sont des choses que l'on peut faire, et qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. Le bonheur, il est dans notre manière de porter notre attention. Et donc, quelles que soient les conditions de vie, si notre attention est uniquement captée par ce qui nous manque au niveau individuel, eh bien nous ne serons pas heureux. Et on peut rééduquer l'attention de quelqu'un. Quand on pense aux personnes qui vivent de l'anxiété sociale, elles ont un biais cognitif qui les amène à détecter plus rapidement les visages menaçants. Et donc, on peut s'entraîner à pouvoir regarder ce qui fonctionne bien. On peut s'entraîner à regarder les visages plutôt souriants. Il y a autre chose qui sont tout l'aspect altruiste du bonheur. Et on sait aujourd'hui que la meilleure manière d'être heureux, qui a été mesurée scientifiquement, c'est d'aider les autres à être heureux. Les personnes parmi nous qui sont les plus généreuses sont les plus heureuses. Les personnes qui sont les plus heureuses sont aussi les plus généreuses.
Et on verra aussi que le bonheur passe par la difficulté, justement. Il faut mettre un peu d'âpreté dans tout ça. Jacques nous dit, on entend parfois parler d'aptitude au bonheur. Est-ce qu'une telle aptitude existe ? Est-ce que ça a un sens, Alexandre Jost ?
Alors, effectivement, il y a une étude fondatrice qui est de Sonia Lyubomirsky, Diner et King, qui je crois date de 2005, qui s'intitule, si je me souviens bien, La poursuite du bonheur. Et cette étude nous suggère que parmi les différentes composantes expliquant le bonheur d'une personne, il y aurait 50% qui seraient héréditaires, génétiques.
Oula.
10% qui seraient structurels et 40% qui seraient liés à nos choix et aux activités que nous menons dans notre vie ainsi qu'à notre regard. Fort heureusement, cette étude est en train d'être invalidée ou en tout cas d'être nuancé en disant que la part génétique serait bien plus réduite. Et ça pour deux raisons. La première, c'est l'épigénèse. On s'aperçoit que finalement, nos gènes ont la capacité ou non de s'exprimer en fonction de l'environnement dans les premières années de notre vie. Mmh. Et la deuxième raison, c'est la neuroplasticité, la plasticité du cerveau qui fait que par certaines activités, nous pouvons transformer notre regard sur le monde, transformer notre circuiterie cérébrale. Donc, nous sommes inégaux en termes d'aptitude au bonheur, mais nous avons une capacité à choisir, à déterminer notre chemin.
Et qui va s'exprimer selon l'environnement dans lequel nous baignons, évidemment. La pensée positive, ça, on entend souvent parler de ça, Ilios Kotsou, et on voulait vous faire entendre cette chanson que nous adorons pour l'illustrer.
La positive attitude. Positive attitude.
Voilà, un peu de Laurie sur France Inter, ça nous manquait pour parler de la positive attitude. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous martèle aussi. Hein.
Oui.
Pensée positive, qu'est-ce que c'est agaçant, non ?
C'est agaçant et comme si c'était aussi simple. Comme si toutes les personnes qui allaient mal, qui étaient en dépression, choisissaient de penser négativement. Comme si on ne savait pas chacun d'entre nous qu'il valait mieux peut-être, c'est plus agréable et utile de penser positivement. Donc ça permet déjà de faire un préalable qui est de dire que, bien sûr que le contexte n'est pas aussi important qu'on le dit. Et en même temps, lorsqu'on vit dans un pays en guerre ou lorsqu'on est en France et qu'on n'a pas de toit, on n'a pas besoin d'un livre comme le mien pour nous dire de comment se libérer des illusions. Mmh. Ce dont on a besoin, c'est de conditions de vie décentes et d'un contexte qui nous permette tout simplement de construire les bases du bonheur. C'est une première chose importante. Et c'est important de dire qu'au Sierra Leone, les personnes, en répondant au questionnaire du bonheur, on a beau dire qu'ils sont heureux là-bas au soleil, ils savent très bien qu'ils sont moins heureux qu'en Norvège. Et ils répondent beaucoup plus bas sur l'échelle du bonheur. Alors pour revenir à votre question précise sur cette positive attitude.
C'est les effets catastrophiques de ce type de formule, d'ailleurs, quand même.
Oui, qui tendrait à culpabiliser des personnes. Hein. Il y a des livres qui nous racontent que tout viendrait par une loi magique de l'attraction, de nos pensées. Et donc, on attirerait à nous, matériellement, par rapport aux pensées que nous avons. Comme si, et c'est ce qui est écrit dedans, nos maladies, nos situations de vie, nos finances viennent tout simplement de nos pensées.
Négatives.
En l'occurrence. Si vous êtes malade, c'est que vous pensez très négativement. Et si vous continuez à être malade et vous ne guérissez pas, c'est que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas foutu de penser positivement. C'est assez dramatique de penser, de propager ce genre de choses. Surtout que scientifiquement, on sait bien que nous ne pouvons pas contrôler aussi facilement nos pensées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a bien sûr des outils qui ont été validés aujourd'hui, qui nous permettent de travailler sur notre niveau de bien-être. Mais ce ne sont pas des choses naïves. Il ne suffirait pas de se dire « je vais bien, tout va bien ». Quand il pleut, qu'on soit d'accord ou pas.
En même temps, moi sur cette question, j'ai toujours beaucoup de mal à avoir un avis tranché, mais un chiffre qui peut éclairer notre débat, lorsqu'on demande à des Togolais et à des Américains leur niveau de satisfaction quant à leur santé, ils répondent avec le même pourcentage, ils sont dans les 85% à être satisfaits de leur santé. C'est quand même très étonnant. Donc on a aussi un besoin de rééduquer dans les pays occidentaux notre regard. Et donc, toujours pour parler d'équilibre, je pense que l'équilibre, c'est d'un côté entre ces outils de la psychologie positive qui nous apprennent à développer notre gratitude, notre regard sur le monde de manière positive. Et en même temps, je suis d'accord avec Ilios, ce discernement, cette pleine conscience qui nous apprend à avoir un regard juste et non pas un regard angélique ou un regard angélique.
Alors ça me paraît extrêmement important de ne pas confondre pensée positive et psychologie positive. La pensée positive est une formule naïve qui nous propose de manière magique de changer le monde en changeant nos pensées, ce qui n'est pas possible et validé nulle part, alors que la pensée positive nous propose par des outils, par exemple de choisir de porter le regard. Et quelles que soient les difficultés de l'environnement, nous pouvons choisir de porter le regard sur ce qui va bien et pas seulement sur ce qui ne va pas, mais nous restons totalement réalistes. Nous pouvons choisir de construire sur nos ressources et nos forces, mais ce n'est pas d'inventer un monde qui n'existe pas. Et nous pouvons choisir, par exemple, d'être plus doux et plus tolérant envers nous-mêmes, plutôt que d'être dur. Mais à nouveau, ça part d'outils validés, qui ont été testés et qui sortent de cette forme de pensée magique culpabilisante dont on nous abreuve bien souvent.
Et on verra avec vous dans un instant que le bonheur passe aussi par des expériences intérieures plutôt désagréables. Allez, on continue cette discussion avec les messages franceinter.fr.
Rescue me, I'm alone without you.
Alone avec Célassou sur France Inter et Alexandre Jost qui a envie de danser tout simplement, hein, qui ne se maîtrise plus dans cette tête au carré consacrée au bonheur.
La tête carrée sur France Inter.
Ok, children.
Les enfants.
Bienvenue
à chacun d'entre vous, bienvenue aux parents et aux enseignants, anciens ou nouveaux. Nous ferons tout notre possible pour éduquer véritablement pour le bonheur national brut. Et même, comme c'est le cas ici à l'ELC, pour le bonheur universel. Tout le monde dit « Je peux ». Ok, 1, 2, 3.
Voilà, toujours au Bhoutan, hein, extrait de ce documentaire « Au pays du bonheur national brut » de Marie-Monique Robin qui avait été diffusé sur Arte en 2014. Alexandre Jost, donc Ilios Koutsou, nos invités pour parler de cette quête du bonheur et puis aussi des solutions peut-être pour y parvenir, pour une société plus épanouie avec la fabrique Spinoza, c'est votre volonté aussi, ce bien-être sociétal. Et puis Ilios Koutsou, l'éloge de la lucidité, ces questions donc autour du bonheur. Alexandre Jost, le champ éducatif, c'est absolument essentiel justement si on veut faire bouger les lignes dans ce domaine de la société.
Oui, tout à fait. On pense que c'est à la fois un endroit à protéger parce que avant d'interagir avec le champ éducatif, eh bien, faut être très prudent. Et en même temps, c'est l'endroit où se prépare l'épanouissement futur. Au sein de la fabrique Spinoza, nous avons créé les premiers ateliers du bonheur à l'école le 17 janvier.
Ça veut dire quoi concrètement?
Eh bien, concrètement, ça veut dire que pendant une matinée, vous avez des conférences sur le sujet, sur l'épanouissement à l'école et des ateliers concret pour les professeurs, les enseignants, mais aussi les parents, de telle sorte à créer un réseau national d'écoles qui seraient partantes pour lancer des initiatives favorisant l'épanouissement dans les écoles. Avec, sans être angélique, toujours ce mot est important, en prenant en compte le fait que le climat puisse être difficile dans les écoles. Donc il faut commencer par des choses comme la discipline positive, c'est-à-dire donner des outils à des professeurs qui sont déjà très compétents pour créer un climat de bienveillance dans la classe, et ensuite amener d'autres outils, la coopération, des diversités pédagogiques. Mais le mot important dans ce que j'ai dit, c'est créer un réseau qui, en s'appuyant sur des recherches scientifiques, permettent à des professeurs et à des établissements eh bien, d'être innovants en termes d'épanouissement à l'école.
Et la science, Ilios Koutsou, a des choses à nous dire aussi dans ce domaine.
Et elle nous dit que quand on favorise plutôt la coopération et pas seulement la compétition, on a de meilleurs résultats. Alors quand on compare, une grosse méta-analyse qui compare chez des ados les résultats des deux, on se rend compte que bien sûr le climat de compétition fonctionne, mais le climat de coopération fonctionne aussi bien en termes de notes, mais fonctionne beaucoup mieux en termes relationnels et en termes de bien-être pour les élèves. Et on se rend compte dans des études qui montrent que lorsqu'on amène des élèves en difficulté à devenir des tuteurs d'autres élèves en difficulté, ça bénéficie aux deux. Et donc on peut gagner jusqu'à 3 années de retard, regagner 3 années de retard en allant apprendre à d'autres petits camarades qui sont en retard, et donc ça bénéficie aux deux. Donc pouvoir vraiment entretenir ce climat de saine émulation, et l'idée ça serait de dire, c'est pas qu'il faut abandonner l'excellence, mais on peut envisager l'excellence par comparaison aux autres, donc je suis bon parce que l'autre est moins bon, ou on peut se dire, on va essayer de tirer le meilleur de chacun en faisant monter toute la classe.
Et l'évitement de la difficulté, ça c'est un point important aussi de votre livre, hein, dans cette libération des illusions qui empêchent d'être heureux, pour reprendre le sous-titre de votre livre. Vous dites qu'il faut se confronter aussi aux difficultés, parce que c'est ça qui nous emmène sur la voie du bonheur.
Oui, se confronter au réel, regarder le monde tel qu'il est, les yeux ouverts, et pas poursuivre des mirages. Et quand on confond le bonheur et le plaisir, ça a beaucoup de conséquences difficiles. La première chose, c'est que nous allons nous couper de toutes ces émotions que sont la tristesse, que sont l'anxiété, ainsi de suite, qui sont des émotions importantes. Elles sont importantes, premièrement, parce qu'elles nous donnent des informations sur l'environnement, et deuxièmement, elles sont importantes parce qu'elles nous connectent aux autres. Et lorsque je refuse mes émotions compliquées, je suis dans un premier cas comme celui qui ne pouvait pas tolérer la peur, ne va pas chez le dentiste, parce que le problème quand on ne va pas chez le dentiste, c'est pas la peur, c'est de ne pas être capable de tolérer la peur du dentiste, première chose, donc on ne fait plus certaines choses. Et deuxièmement, en ne tolérant pas les difficultés, alors je ne tolère plus la présence de personnes qui souffrent, la présence de proches peut-être, et je n'ai plus la capacité d'aller les aider. Et à nouveau, je répète évidemment la même chose, les liens sociaux et les autres, c'est le premier élément du bonheur.
Laurent nous dit, votre vision du bonheur à travers la relation avec les autres et la notion de collectif est également une injonction conformiste. Personnellement, je suis marié, j'aime ma famille, je n'ai pas de télé, mais je ne suis jamais aussi heureux que lorsque je pars seul marcher retrouver dans la montagne. Arrêtez de culpabiliser les gens qui aiment la solitude. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre, Alexandre Jost ?
Je suis désolé que mon propos ou nos propos soient perçus de manière culpabilisante. Non, effectivement, c'est pour ça que je parlais d'équilibrer la science et le débat. On sait que les individus qui aujourd'hui considèrent que les relations humaines et les relations sociales sont importantes dans leur vie sont des gens qui sont plus heureux. Et on n'est même pas en train de dire que ces gens-là, parce qu'ils ont plus de relations, sont plus heureux. On est en train de dire parce qu'ils considèrent que les relations sont importantes, alors ils sont plus heureux. Mais à chacun de construire son modèle de vie, évidemment.
Marjorie nous dit « Je pense que la quête du bonheur avec un grand B pose problème, car concrètement ce bonheur est inatteignable, particulièrement lorsque nous rencontrons un accident de la vie, comme nous en connaissons tous, deuil ou chômage. Je crois que la sagesse est dans l'appréciation des bonheurs, ces petits riens que nous vivons trop souvent sans les voir. »
Je suis complètement d'accord avec nos deux intervenants. Et le premier intervenant parle bien de sa famille, donc il nous parle quand même de liens. Et si on pourrait amener trois éléments du bonheur qui ont été étudiés, le premier, c'est notre attention. Avoir une attention qui nous permette de nous tourner vers les petits riens. Le bonheur vient des petits riens et le malheur de la négligence des petits riens. Le deuxième élément, c'est d'être ouvert. Et donc cette ouverture à notre propre vie intérieure, à nos émotions, à nos vulnérabilités, mais être ouvert aussi aux autres, être ouvert à la beauté du paysage dont nous parle l'auditeur. Et bien sûr, être seul dans la montagne, ouvert à la nature. Nous sous-estimons par exemple l'effet de la nature, nous surestimons l'effet de l'argent. Et le troisième élément, c'est l'engagement pro-social. Et votre auditeur a bien raison, il ne faudrait pas risquer de tomber dans une dictature de ces éléments-là, mais cette possibilité d'être en même temps attentif, ouvert et bienveillant au niveau individuel et au niveau collectif nous permettra peut-être de construire les conditions d'un bonheur plus durable pour l'individu mais également pour les sociétés.
Bastien nous dit « J'ai trouvé le bonheur mais ça m'est arrivé après être passé par des étapes extrêmement dures, dépression, épisode maniaque, autre dépression. Aujourd'hui, depuis 8 ans, les choses vont bien, je le vis à chaque instant et ma vie professionnelle est en train de tendre vers quelque chose qui m'a toujours passionné. »
Et ce qu'on peut voir dans les études, c'est que quand on compare des personnes qui n'ont vécu aucune difficulté avec des gens qui en ont vécu vraiment beaucoup et ceux qui en ont vécu un certain nombre, on voit que les gens les plus heureux sont ceux qui ont vécu un certain nombre de difficultés. Et peut-être un peu ce que disait Nietzsche en disant « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est en partie vrai. C'est de dire que les difficultés parfois nous permettent de mieux nous connaître, mais aussi de mieux apprécier les bienfaits de l'existence. Alors que la plupart d'entre nous, on s'adapte pour des raisons d'évolution à toutes les difficultés, mais on s'adapte encore plus vite aux bienfaits et on oublie souvent de regarder toutes ces petites choses qui nous permettraient d'être heureux. Pardon.
Estelle nous dit « L'injonction de penser positif n'est pas si simple, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, la méthode Coué, ça aide. » Alexandre Jost,
bah, écoutez,
ça vous tient à cœur la méthode Coué ou pas?
Bah, je répondrai en disant qu'il y a effectivement une différence entre pensée magique et science, comme tu le disais, Ilios. Ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions-là, on les voit même dans le champ de l'entreprise. Vous voyez, au sein de la Fabrique Spinoza, nous organisons les universités du bonheur au travail. En octobre ou en novembre, et on s'aperçoit que progressivement, des entreprises font le choix d'incorporer ces méthodes en leur sein. Par exemple, inviter leurs collaborateurs à ne pas être dans l'exigence émotionnelle, c'est-à-dire s'autoriser à avoir des émotions et à les exprimer sur leur lieu de travail. Et cela génère une plus grande performance économique, tant mieux.
Et pour vous, en tout cas, la Fabrique Spinoza, c'est un véritable projet de société, hein, effectivement, ce bien-être des personnes. Avant de se quitter, quand même, on n'oublie pas notre message, parce qu'on l'aime bien quand même.
La positive attitude. Positive attitude.
Voilà, c'est fini avec Laurie, la positive attitude, ou plutôt la psychologie positive qui vous intéresse beaucoup plus. Ilios Kotsou, Éloge de la lucidité, préfacé par Christophe André. C'est un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont. Et puis la Fabrique Spinoza, vous avez un site internet évidemment, fabriquespinoza.fr, c'est ça, hein.
Devenez passeur du bonheur citoyen, rejoignez-nous et aidez à construire des politiques publiques pour un épanouissement collectif et démocratique.